Jeudi 27 juillet 2023, bienvenue au journal en français du studio Kalangou. Rafika Taher au micro. À la une ce 17h, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, une junte militaire, a annoncé hier soir avoir mis fin au régime du président Bazoum Mohamed. À suivre dans ce journal la déclaration du CNSP. Après cette déclaration d'hier tard, la nuit, comment se porte la ville de Niamey? Notre reporter était ce matin dans la ville à suivre aussi son constat. Et la partie magazine de ce soir nous amènera à la découverte du Garou, une muraille du patrimoine historique de Zender qui protégeait l'ancienne ville. Dès la nuit d'hier, mercredi 26 juillet, aux environs de 23h, des militaires ont annoncé à la télévision nationale avoir renversé le président Mohamed Bazoum, élu en 2021. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale, a justifié le colonel-major Amadou Abdrahman dans un communiqué entouré de 9 autres militaires. Des propos recueillis par nos confrères de la télévision nationale.
Communiqué numéro 1. Ce jour, 26 juillet 2023, nos forces de défense et de sécurité, réunies au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale, réaffirmant notre attachement au respect de tous les engagements souscrits par le Niger, nous rassurons la communauté nationale et internationale par rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités déchues conformément aux principes des droits humains. Communiqué numéro 2. Toutes les institutions ici de la 7e République sont suspendues. Les secrétaires généraux des ministères se chargeront de l'expédition des affaires courantes. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation. Il est demandé à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer. Communiqué numéro 3. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à la stabilisation de la situation. Un couvre-feu est instauré à compter de ce jour, de 22h à 5h du matin, sur toute l'étendue du territoire, jusqu'à nouvel ordre. Fait à Niamey le 26 juillet 2023, signé le président du CNSP.
En bref, dans un autre communiqué publié ce matin par l'état-major, le commandement militaire des forces armées nigériennes composé du chef d'état-major des armées et des chefs d'état-major d'armée à l'issue d'une réunion tenue hier 26 juillet ont décidé de souscrire à la déclaration des forces de défense et de sécurité. Ceci poursuit le communiqué dans le souci de préserver l'intégrité physique du président de la République et de sa famille, d'éviter une confrontation meurtrière entre les différentes forces et d'autre part par le souci de préserver la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité. Le communiqué souligne que toute intervention militaire extérieure de quelque provenance que ce soit risquerait d'avoir des conséquences désastreuses et incontrôlables pour nos populations et le chaos pour notre pays. Après la déclaration lue sur la télévision nationale du Niger qui a annoncé la prise de pouvoir par l'armée hier, la vie ce matin reprend à Niamey, malgré quelques manifestations. Notre reporter Tanan Foudé Ahmed nous décrit la situation de la capitale à la mi-journée.
Après la journée d'hier très mouvementée et qui s'est terminée avec une déclaration de l'armée annonçant la prise de pouvoir en mettant fin aux institutions de la 7e République, ce matin Niamey, la capitale nigérienne, s'est réveillée dans une ambiance très calme. C'est comme si rien ne s'est passé la veille. En début de la matinée, aux alentours du palais présidentiel, la circulation est fluide tandis que l'axe qui mène vers l'état-major est fermé à la circulation. On y voit quelques éléments de la garde présidentielle et des armes lourdes qui font face à l'entrée de cet axe. Quelques services qui jouxtent cet endroit comme l'Institut national de la statistique sont fermés. Devant le siège de la télévision nationale du Niger RTN, Tout marche comme d'habitude malgré un imposant dispositif des militaires et des éléments de la garde nationale qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les situations normales. Un peu plus loin, dans les centres-villes, précisément à la place de concertation devant l'hémicycle, des milliers de personnes sont sorties pour apporter leur soutien aux militaires qui ont pris le pouvoir hier. D'autres manifestants ont pris la direction du siège du PNDS Tareya, le principal parti au pouvoir où les militants de ces partis devaient rendre publique une déclaration avant que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ne publie son communiqué numéro 5 qui suspend toutes les activités des partis politiques. Au siège de ces partis, quelques éléments qui manifestaient ont incendié plusieurs véhicules avant de vandaliser l'immeuble qui abrite l'état-major du PNDS Tareya, le parti qui détenait le pouvoir avant le coup de force d'hier.
Le secrétaire d'État Anthony Blinken s'est entretenu hier au téléphone avec le président nigérien Mohamed Bazoum selon un communiqué du gouvernement des États-Unis. Le secrétaire a exprimé le soutien indéfectible des États-Unis au président Bazoum. Mohamed Bazoum est à la démocratie nigérienne. Il a souligné que les États-Unis se tenaient aux côtés du peuple nigérien et des partenaires régionaux et internationaux pour condamner cet effort visant à prendre le pouvoir par la force et à renverser l'ordre constitutionnel. Le secrétaire Blinken a souligné que le partenariat économique et sécuritaire des États-Unis avec le Niger, dépend de la poursuite de la gouvernance démocratique et du respect de l'état de droit et des droits de l'homme. Les militaires réunis au sein du Conseil national de la sauvegarde de la patrie CNSP ont aussi annoncé hier à la télévision nationale du Niger la suspension de toutes les institutions de la République. Dans leur déclaration, les militaires ont évoqué la dégradation de la situation sécuritaire. Sédi Kaba, journaliste, analyste de la situation sécuritaire et politique au Sahel, nous livre son analyse. Il est joint au téléphone par Tamnan Foudey Ahmed.
Pour deux raisons, le coup d'État peut être considéré comme une réelle surprise. La première, c'est que le pays a jusqu'ici fait preuve d'une stabilité politique apparente. Parce que quand vous regardez, il n'y a pas eu de crise politique au Niger, comme on a pu le voir par exemple au Mali en août 2020. Puisque comme on sait au Mali, le pays a été beaucoup secoué par la crise post-élection législative où la Cour constitutionnelle avait accordé des sièges au parti de IBK qui était contesté et qui a conduit au M5. Il y a cet argument de la stabilité politique qui peut être pris en compte.
Selon vous, qu'est-ce qui justifierait ce coup d'État?
Les auteurs du coup d'État ont eux-mêmes donné les éléments qu'ils estiment être les raisons de leur action. La première raison, c'est la dégradation de la situation sécuritaire. Au-delà de l'apparence de résilience et de bons résultats, le fait est que il y a aujourd'hui une progression des groupes djihadistes, les deux groupes enseignes d'ailleurs, l'État islamique au Grand Sahara, dans la partie Tillaberi et frontière avec le Mali, et puis le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans du côté de la rive droite du fleuve, c'est-à-dire la région de Saï et le parc W. Cette double présence fait que il y a quand même des difficultés sur le plan de la lutte contre le terrorisme qui se manifestent même si on n'a pas réussi. Donc les militaires qui sont sur le terrain, eux, voient toutes les difficultés qu'on a à obtenir des résultats à la hauteur des attentes des populations, mais surtout des résultats qui correspondent à la présence militaire française, puisqu'il y a une présence militaire étrangère au Niger, on aurait pu s'attendre à ce que les résultats soient encore meilleurs. Et donc si vous mettez ça ensemble, ça peut créer un sentiment de déception et de fâcherie de la part des militaires. Mais la deuxième justification au coup d'État, c'est la question de, je pense que c'est ça la fragilité du régime qui a été renversé, c'est que sur le plan de la lutte contre la corruption, les engagements pris en avril 2021 n'ont pas été tenus. La lutte contre le terrorisme, la lutte contre la corruption n'a pas enregistré des résultats spectaculaires. Il y a eu quelques arrestations ici et là, mais fondamentalement, la corruption n'a pas reculé et les principaux dossiers, les dossiers emblématiques de la lutte contre la corruption, comme le dossier du ministère de la Défense, n'ont pas été élucidés et les personnes qui sont présumées responsables de cette situation n'ont jamais été arrêtées. Donc c'est tout ça mis ensemble qui explique un peu là où les militaires ont trouvé des arguments pour justement justifier leur coup d'État. Et sans doute, comme on l'a vu, le coup d'État est parti de la garde présidentielle qui a finalement réussi à rallier les autres corps de l'armée en vendant sans doute toutes ces arguments-là, les arguments de la lutte contre la corruption, les arguments de toutes sortes pour essayer de rallier le reste de l'armée à l'opération qui a été au début lancée par la garde présidentielle.
Ce coup d'État peut avoir un impact positif sur la situation sécuritaire en cours au Niger si les militaires reprennent la collaboration avec le Mali et le Burkina Faso, a ajouté Seydi Kaba. On l'écoute encore avec Tarnan Foudey.
A priori, le coup d'État peut faire craindre, à juste raison d'ailleurs, un recul de la lutte contre le terrorisme. En ce sens que le pouvoir militaire peut être occupé par l'agenda politique au point de ne pas avoir le temps de s'investir totalement dans la lutte contre le terrorisme. Mais dans le cas du Niger, et en raison de la situation avec la situation au Mali et au Burkina, il est possible que le coup d'État puisse faciliter la coopération entre les pouvoirs militaires du Niger, du Mali et du Burkina. Vous savez, comme le Niger est c'était le seul régime civil à côté de ses voisins burkinabés et maliens, la coopération n'a pas été toujours très bonne. Les opérations conjointes que le Niger faisait avec les armées du Mali et du Burkina, ces opérations-là ont été suspendues à cause des mauvaises relations qu'il y a entre Niamey et Ouagadougou, Niamey et Bamako. Maintenant qu'un pouvoir militaire s'est mis en place, il est possible que les militaires puissent communiquer plus facilement entre eux. Et dans ce cas, la coopération transfrontalière va reprendre et les armées du Niger, du Mali et du Burkina vont retravailler ensemble. Si elles le font, ça pourrait impacter positivement la lutte contre le terrorisme parce qu'aujourd'hui, la menace, elle est transnationale et la réponse ne peut être que transnationale. Dans le cas d'espèce avant le coup d'État, la menace est restée transnationale, mais la réponse est restée nationale. Chacun fait de son côté ce qu'il peut et les djihadistes en ont profité pour attaquer le Niger, se réfugier au Mali ou attaquer le Mali, se réfugier au Niger ou attaquer le Burkina, se réfugier au Mali ou au Niger. Donc, la coopération transnationale ne marchait pas. Et avec l'arrivée de la junte, on peut voir que les différents pouvoirs kakis dans les trois pays pourront se parler plus facilement et obtenir plus de résultats dans la lutte contre le terrorisme.
Bienvenue dans la partie magazine. Pour protéger le quartier Birni de Zender abritant le sultanat contre les attaques extérieures, le sultan Tanimoun avait érigé le garou autour des 7 portes d'entrée. Ce sont des murailles de 9 à 10 mètres de hauteur sur 12 à 14 mètres à la base aux environs des portes. Une des 7 portes a pu être reconstruite par l'Association pour la sauvegarde du patrimoine historique et culturel du Damagaran avec le soutien de ses partenaires. Laminou Issa Kabra, président de l'association, au micro de Ali Keita.
Monsieur le président de l'Association des sauvegardes du patrimoine historique et culturel du Damagaram, qu'est-ce que le garou ou muraille?
Le garou ou birni ou la muraille, c'est un mur qu'on érige pour protéger une ville. Les villes anciennes telles que Kano, Goumal, les Kazaouré, Daoura, etc. étaient clôturées par des murs. Zander aussi, c'est pour fortifier la ville et la protéger contre les attaques extérieures.
Parlez-nous des origines de la construction du garou ou muraille du Damagaran.
Il faut savoir que c'est dans les années 1810 quand Maï Souleyman, le père de Tanimoun et de Ibrahim, a établi définitivement sa capitale à Zinder, la déformation qui est devenue Zinder. Il avait creusé une tranchée pour protéger sa ville. Il avait planté des arbres tout autour. On parle de Gamji. Cela a été illustré dans les années 1852 quand Heinrich Barth était venu à Zinder. Et juste en 1852, c'était Tanimoun qui est arrivé. Lui, c'est un sultan qui avait beaucoup d'idées, qui a pensé que nous sommes sous la tutelle du Bornou et que voilà, maintenant nous allons essayer de faire un certain nombre de choses, clôturer et reconstruire le palais du sultan, faire une mosquée imposante et dans les années 1855 et l'origine de la mosquée et l'origine aussi du palais, l'origine surtout garou.
À quand la réhabilitation de ces 7 portes du garou?
Vous savez, le garou, il y a des parties, vous allez voir dans beaucoup d'endroits les ruines. Nous avons fait des offensives auprès des partenaires, donc nous avons juste eu la réhabilitation d'une des 7 portes. Nous sommes en train de chercher les partenaires qui vont nous aider à reconstruire une partie là où vraiment c'est pas occupé, tant qu'il s'agit agi, de faire des dédommagements, etc. Chaque fois, c'est vraiment compliqué. Nous avons même en dehors de cette porte réussi à reconstruire la maison où Henrich Barthes, où Harry Barthes avait résidé. Mais maintenant, la maison est là. Elle est en voie d'être équipée avec nos partenaires de la coopération allemande.
Au terme de ce journal, merci de l'avoir suivi.